Monique, vous lisez combien de livres à peu près par an?
Oula.
Non, mais à peu près, on n'est pas un prêt. Hein.
Ben, j'en lis deux par mois.
Oui, donc ça fait 24.
Voilà.
Voilà.
Oui.
Et vous, Michel?
À peu près dans ces eaux-là, je dirais.
Oui. Ouais.
Pas bien le temps en plus.
Oui. Ah oui, mais après, il y en a qui travaillent, mais c'est vrai que c'est un peu moins facile. Bien. Annie, vous?
Moi, un à deux par semaine.
Mais quand même.
Oui, je lis beaucoup. Ah,
oui, oui, ça fait plus de 100 livres.
Oui.
Ouais, et vous lisez, c'est très éclectique,
oui,
ce que vous lisez.
J'aime bien les policiers, j'aime bien
les romans policiers,
les policiers, la littérature classique.
Ouais.
Voilà, oui, j'aime bien lire.
Bon, c'est bien. Félicitations. Et vous, Chantal?
Moi, ça dépend de la grosseur du livre.
Ah oui, bah, c'est pas mal aussi, mais...
Après, ça dépend si ça se lit facilement, si c'est un gros...
Et vous avez une préférence dans les thèmes?
Moi, je lis un peu tout, en fait.
D'accord. Il n'y a rien qui vous accroche plus qu'autre chose?
Si, mais j'aime bien changer, en fait.
D'accord. Je ne vous ai pas demandé, vous, Monique. Oui, vous lisez. Vous avez des préférences là?
J'aime bien les romans, mais j'aime bien changer aussi, lire autre chose, un peu plus d'actualité. Voilà.
J'ai lu un sondage sur Internet, là. Ce sont les romans épais qui se vendent le mieux.
Ah bon?
Moi j'aime bien aussi comme ça.
Moi c'est le contraire, j'aime bien aussi comme ça, 300 pages.
Ouais, voilà, épais.
Oui. C'est la couverture.
Ouais.
Quand on est à la bibliothèque, on regarde les livres. D'abord je touche le livre, je regarde là, je regarde derrière, je regarde s'il y a des dialogues, comment sont...
Si c'est pas écrit trop...
Si c'est pas écrit trop gros, et puis...
Trop petit, vous voulez dire,
Trop petit, il faut que je vous appelle un peu le livre.
Oui, voilà, il faut que ça... Un flash.
Oui, c'est du marketing.
Oui,
c'est du marketing.
Donc, du coup, c'est très important.
Je vais vous répondre sur le plan du marketing, parce que des études ont été faites concernant les motivations d'achat d'un livre dans une librairie. Et pour nous, les auteurs, on se demande s'il ne faudrait pas mieux arrêter d'écrire, parce que voilà, 30% de la motivation d'achat, c'est le titre. C'est pour ça que les éditeurs, parfois l'auteur n'est pas d'accord avec l'éditeur, mais le titre est vraiment très très important. Ensuite, c'est la couverture, 30% aussi. Ensuite, c'est la quatrième, 30%. Ce qui fait qu'il reste que 10% pour l'écriture. Donc on se dit, est-ce que ça vaut le coup de continuer d'écrire?
Non, mais je reconnais que c'est difficile. Non, mais quand on arrive dans une librairie où il y a des centaines de livres, pourquoi prendre celui-là plutôt qu'un autre? Alors on va lire le quatrième de page, ça peut attirer si c'est le truc qu'on recherche. Là, je pense que l'important, c'est le libraire. Parce que le libraire, s'il a lu, souvent ils ont lu, eux ils vont pouvoir vous indiquer, parce que si le livre est mauvais, ils vont vous le dire. Hein, ils
en
sont
fait,
pas là pour...
la plupart des lecteurs qui entrent dans une librairie ou dans une bibliothèque,
ils ont une idée préconçue,
ils savent déjà ce qu'ils veulent.
Ouais.
Et pourquoi? Parce qu'ils ont lu des articles de presse, ils ont écouté à la radio,
puis
leurs amis, parce que les lecteurs c'est quand même une famille, on en parle entre nous, donc on dit, et puis il y a aussi les thèmes... Il y a des époques de l'année, par exemple, je me souviens, c'était un peu avant Noël, j'avais été invité à la FNAC depuis à faire une dédicace, donc je regardais ce que les gens achetaient, et il y avait tout un rayon, c'était que des livres, que des livres, que des livres sur Napoléon. Et alors, j'ai demandé, me disant, mais Napoléon, c'est ce qui se vend le mieux, et alors chaque année avant Noël, les éditeurs le savent, ils publient énormément des beaux livres, y compris des BD, de tout sur Napoléon, et ça se vendait comme des petits pains, comme des petits pains. Et alors, bon, il y en avait un que j'avais repéré, mais je ne l'ai pas acheté tout de suite. C'était Napoléon vu par les images d'Épinal. Et puis je reviens deux jours après, mais il est parti.
Et alors, on n'a pas parlé des romans du terroir, parce que là, il y a dilemme. Là, vous savez que les gens, vous lisez, donc vous savez qu'il y a beaucoup d'écrivains, mais là, les gens écrivent beaucoup. Hein. Ça, je crois qu'on connaît ça depuis 20-30 ans. Hein. Avant, maintenant, on a quelqu'un à côté chez nous qui écrit un livre, quoi, c'est un peu ça. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Ça vous attire, les romans du terroir, ou pas, Monique?
À une époque, ça m'attirait beaucoup. Maintenant, j'ai changé.
D'accord.
J'aime bien lire autre chose que du terroir, voilà.
Annie, c'est pareil? Michel, pardon.
Moi, c'est le contraire, ça ne m'intéressait pas du tout. Et maintenant, maintenant j'aime bien.
D'accord.
Oui.
Annie.
Oui, moi, sur Saint-Paulien, là, ça m'a...
Oui, mais en général, je parle en général.
En général,
le terroir.
Oui, il en faut un petit pourcentage.
Ouais.
Voilà.
Sinon, Chantal.
Oui, moi aussi, j'en prends régulièrement.
D'accord.
Alors, pour ce qui concerne le roman de terroir... Bon, ce qui se faisait il y a 20-30 ans, c'est terminé, ce qu'on appelait, nous, le roman de corps de ferme, vous voyez. Mais là, moi, je ne considère pas du tout que c'est un roman de terroir. Hein, et je n'écris plus de roman de terroir. Mais par contre, j'attache beaucoup d'importance à la réalité des lieux. Autant mon histoire est imaginée, à partir d'un fait réel, j'aime bien partir d'un fait réel, mais ensuite je m'en détache, hein, parce que sinon c'est un travail d'historien, de journaliste, moi je suis ni un historien ni un journaliste, je suis un romancier. Mais je voudrais quand même, et j'invite souvent mes lectrices, mes lecteurs, après lecture, à aller faire sur place ce que j'appelle une promenade littéraire. L'un des meilleurs souvenirs que je garde, c'était quand j'avais publié mon roman Les Amants de Juin, qui se passait à Pinol, au pied du Mont Mouchet. J'avais reçu un coup de fil du maire de Pinol qui me disait, écoutez, votre roman chez nous, il a vraiment fait parler, et alors il y a un club de randonnée qui voudrait vous inviter à faire une promenade qui regroupe tous les lieux où se passe votre roman. Et alors on aimerait que vous y participiez, et puis que vous ameniez votre roman et que vous donniez sur les lieux qu'on aura repérés lecture du passage du roman. On avait passé une journée absolument merveilleuse. Et alors je voudrais quand même dire que la littérature de terroir, c'est la grande littérature. Bon, vous avez tous lu le roman de La Rose, vous avez tous lu L'Astrée. Notre grand-mère à tous, c'est George Sand. Tous les romans de George Sand sont des romans de terroir. On a énormément d'écrivains du 19e siècle, et les plus grands, qui ont écrit essentiellement des romans de terroir. Mais ce qu'il y a, c'est le roman de terroir, c'est comme de tout, il y a le meilleur et puis il y a le pire, quoi. Et moi, je trouve que, par exemple, les contes de Maupassant, Guy de Maupassant, c'est vraiment typiquement un auteur de terroir. Flaubert aussi, quand vous lisez Madame Bovary, c'est un roman de terroir. Le roman de terroir, mais comme tous les romans, c'est le polar, il y a d'excellents polars, puis il y a des polars qui sont nuls, quoi, dans toutes les catégories des littératures. Aujourd'hui, la mode est un petit peu à la littérature anglo-saxonne, type Guillaume Musso. Il y a des romans anglo-saxons qui sont des chefs-d'œuvre, puis il y en a d'autres qui veulent. Mais ça, c'est pour tout. C'est comme le vin, il y a de très bons vins, puis il y en a d'autres qui sont des piquettes, quoi. Mais alors, je voudrais quand même revenir sur le livre. Aujourd'hui, le livre, il est comme tout ce qui se passe à notre époque. Le moyen disparaît. On publie en France à peu près chaque année 350 millions de livres. Hein. Pas que des romans, mais 350 millions de livres. Et alors, comme disait madame, vous avez deux sortes de lecteurs. Vous avez le lecteur qui est un boulimique de lecture, qui lit énormément, et puis vous avez des lecteurs qui ne lisent pratiquement plus, sinon épisodiquement. Mais alors, ce qui faisait la force, c'est-à-dire le lecteur moyen, eh bien, ce lecteur moyen est en difficulté. Un petit peu comme tout ce qui est moyen aujourd'hui, l'hôtellerie, tout. Il y a soit beaucoup, le plus, soit au contraire très très peu, quoi. Voilà.
Alors quand tu parlais des romans du terroir, bon, je sais que toi c'est ta particularité, tu me l'as dit chaque fois que tu faisais un livre, c'est quoi quand tu parles d'un lieu, c'est que tu y as été.
Oui, voilà, alors moi quand j'écris, la première, j'attends bien sûr d'avoir l'idée. Hein, alors soit l'idée elle vient toute seule, parce que vous devez connaître le fonctionnement de votre cerveau, mais il suffit de le solliciter pour qu'il ne vous réponde pas. Les idées viennent quand vous n'y pensez pas. C'est comme nos poumons, notre cœur, notre estomac, ils fonctionnent tout seuls. Quand on mange, on ne dit pas à notre estomac, allez, vas-y. Et bien le cerveau, j'ai remarqué, c'est tout seul. Et c'est pareil, il fonctionne tout seul. Et alors, de temps en temps, y a une idée qui vient. Il m'en vient même beaucoup, mais il faut que je fasse la chasse aux idées, parce que j'en ai trop. Et l'idée qui arrive le matin, qui me paraît géniale, le soir, après examen, elle me paraît nulle. Et alors, à partir du moment, mais alors là, ça se fait tout seul. La décantation, elle se fait inconsciemment, sans y penser. Quand j'ai une bonne idée, je la tiens. Alors, la première chose que je fais, je prends ma voiture, et puis je pars quelques jours sur place, faire des repérages. Alors, en ce moment, j'écris des romans avec un ancrage en Haute-Loire, mais ensuite, je quitte la Haute-Loire. Hein. Que des romans qui se passent un peu partout en Auvergne. Là, depuis deux romans, l'essentiel se passe en Ardèche. L'Ardèche est un département que j'aime beaucoup et qui ressemble énormément d'ailleurs à la Haute-Loire, mais c'est un département magnifique, l'Ardèche. Et puis je connais bien l'Ardèche parce que j'étais en poste à Valence pendant une dizaine d'années. Donc le lundi matin et le vendredi soir, je traversais l'Ardèche pour aller à Valence et pour en revenir. Donc je connais bien l'Ardèche. Et puis alors, une fois que j'ai fait mes repérages, en faisant mes repérages d'ailleurs, le roman se construit. Et c'est à partir du moment où je connais parfaitement le début de mon roman et la fin de mon roman que je commence à écrire. Parce que le plus important, c'est de connaître la fin de son roman. Je ne sais pas si vous avez lu, alors lui aussi c'était un grand auteur de terroir, Henri Vincenot. Henri Vincenot, ben, il a écrit un roman merveilleux qui s'appelle La Bille-Baude. La Bille-Baude, c'est partir le matin pour aller à la chasse. On ne sait pas où on va aller, mais il y a une certitude, c'est que le soir, on va rentrer chez soi. Ou alors, on va se faire disputer par madame. Bon. Donc, eh bien, le roman, c'est pareil. Je connais le début, je connais la fin. Et puis, quand je connais ça, ben, je commence à écrire. Et je me souviens d'un très mauvais souvenir. C'était quand j'avais écrit mon roman Les Enfants des Étoiles. À cette époque-là, je débutais, je balbutiais en informatique, et puis j'oubliais, comme beaucoup qui débutent, de faire mes sauvegardes. Donc j'écris la première demi-page de mon roman, et puis le téléphone sonne, je sors de mon bureau pour répondre, et puis quand je reviens, ben, c'était blanc. Et alors, j'ai réécrit, bien sûr, mais je suis certain que c'est pas si bon, parce que c'est l'émotion qui fait la qualité de l'écriture. À partir du moment où vous écrivez sans émotion, bon bah, c'est pas si bon, quoi. Il faut, c'est l'émotion qui fait la qualité de l'écriture. Comme dans tout, je pense que les gens qui font de la peinture, qui composent de la musique, qui sculptent n'importe quoi, ou qui font de la cuisine, s'il n'y a pas un élément affectif, c'est pas si bon. Voilà.
Bon, ben, on arrive bientôt au terme de cette émission, Albert.
Je vais peut-être vous lire la première page.
Ah ben, vas-y.
La déclaration de guerre telle que l'ont ressenti les paysans de Saint-Paulien. Et en particulier, donc, ce couple de paysans qui est le personnage. Donc, nous sommes en août 14. Le Tocsin. Oui, parce qu'à cette époque-là, en août 14, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télé, les paysans ne lisaient pas les journaux. Donc on utilisait encore le tocsin donc pour les mariages, les enterrements, les incendies, enfin tout. C'était les cloches de l'église qui servaient de relais. Donc nous sommes début août 14. Il faisait lourd, le soleil avait doré les blés, mais l'orage guettait et chacun se hâtait. Jean piquait de son trident une nouvelle gerbe, s'apprêtait à la dresser sur la meule, lorsqu'il perçut venant de Saint-Paulien la première volée de cloches. Elle n'annonçait ni un mariage, ni un enterrement, encore moins un baptême. Jean reconnut évidemment le tocsin. Main serrée sur les manches des tridents et des râteaux, debout sur la partie du champ dont il ne restait que les étoles, moissonneurs et moissonneuses, s'arrêtèrent comme lui de travailler. L'appel lancinant du tocsin, les paysans ne le connaissaient jusque-là que pour les incendies. Aujourd'hui, chacun appréhende ce qu'il craint depuis l'été. L'angoisse, la peur saisissent les cœurs. Jean croise le regard de Colette, pique en terre sa fourche, s'approche de sa compagne. D'un regard, les époux se comprennent. Au pays, depuis plusieurs semaines, se précisait l'enchaînement de la guerre. Pourtant, dans les campagnes, peu lisaient les journaux. D'ailleurs, qui savait lire? Chacun se contentait des bruits ramassés le samedi matin sur le marché du Puy. Saison après saison, l'observation du vol bas des oiseaux, des feuilles et du ciel sombre laisse prévoir l'orage. L'hiver, la lourdeur des grisailles, le silence des prairies, le réveil des rhumatismes annonce la neige proche. Cet été 14, les bruits de guerre ramenaient la grande peur dans toutes les conversations. Trois années auparavant, Colette épousait Jean dès son retour du service militaire. Une année après, en août 1912, une petite Dominique souriait à ses parents. Alors, j'aime bien, quand je commence l'écriture d'un roman, dès la première page, poser le cadre, les personnages principaux. Là, je viens de vous lire ça, je vais m'arrêter. Mais à partir de là, vous voyez déjà quels vont être les personnages du roman. Voilà.
Bon, bah, très bien, mais là on va être obligé de s'arrêter, hein, oui. Parce qu'il y a une fin à tout, voilà. Même aux bonnes choses.
Merci de m'avoir invité.
Ben non, mais c'est surtout merci d'être venu. Donc on va remercier Pascal Blasi qui a permis cette rencontre à la médiathèque de Saint-Paulien, que vous retrouvez tous les samedis sur Radio Craponne, puisqu'elle nous parle d'un livre. C'est elle qui le choisit, hein, nous, y a pas, elle n'a pas de pression. Hein. Elle n'a pas de pression. Donc Albert, merci, les amours prisonnières. On remercie aussi les lectrices, ça c'était une première, donc Monique, Michel, Annie, Chantal, je ne vous ai pas demandé, vous êtes toutes de Saint-Paulien ou alentour ?
Il n'y a pas de Bellevue-la-Montagne.
Mais écoutez, merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Et que maintenant, le petit plus, c'est que vous pouvez le retrouver sur notre site Radio Craponne, où là, vous pouvez le consulter quand vous voulez. Bon, ça il sera pas tout de suite, le temps que cette émission, donc qui passera dans quelques temps, sera un invité du jeudi. Enfin, c'était des invités du jeudi. Merci à toi, Albert. Alors, rapidement, parce que la presse finit, je sais que tu en as plein dans la tête. Ton prochain roman, c'est quoi ?
Alors, mon prochain roman se passe également 14-18. C'est un roman sur la désertion. Donc, c'est le roman d'un déserteur. Voilà.
D'accord.
Parce qu'il y a eu énormément de déserteurs pendant la guerre, comme dans toutes les guerres d'ailleurs.
On peut le comprendre.
Les gens ne le savent pas, mais en juin 1944, lorsque les Américains ont débarqué, il y a eu énormément de désertions dans l'armée américaine. C'était un peu le problème majeur de l'armée américaine, qui les obligeait à ramener sans arrêt des renforts des États-Unis pour combler la désertion. Et il y a beaucoup de soldats américains qui ont rencontré des Françaises et qui se sont établis en France.
Voilà, comme quoi, ça pas que du mauvais, les gars. Ah, mais on va prendre le bon coup.
Comme on dit, il faut bien renouveler. Hein.
Il se passe dans quel endroit ?
Alors, ça va se passer dans une autre région de la Haute-Loire. Ça va se passer du côté de Brioude, de Blesle, la route impériale, le château de l'Espinasse, le château d'accord. De Beaubourg, enfin toute la partie nord, voilà.
Pascal, pour terminer, combien de livres dans la médiathèque de... environ, quelque chose près. Aucune idée ?
Ah non, je ne sais pas. Moi, okay. Les chiffres ne restent pas dans ma tête. Je mets des chiffres sur papier une fois.
Et vous en renouvelez combien à peu près ?
On a un budget de...
Oui, ça fait combien de livres à peu près par an qu'on renouvelez ? Non, pas d'idée. Bon, vous les renouvelez ?
Je ne sais pas. Moi, les chiffres, ce n'est pas mon truc. Je les mets sur papier quand j'en ai besoin. D'accord. Et puis après...
Mais écoutez, merci à toutes et à tous. C'est une bonne idée, je trouve, ça change un petit peu. C'est pas... Enfin, c'est souvent qu'on fait ensemble, mais bon, là, comme ça, on a écouté les lectrices. Donc, dans l'ensemble, c'est bien ressenti, ton livre. Ça te rassure.
Merci. Alors, merci au public aussi. Hein.
Oui.
Et puis, je vous ai amené un certain nombre d'ouvrages. Donc, si vous souhaitez que je vous le dédicace, je suis à votre disposition. Et je vous ai également amené un petit cadeau, donc des marque-pages que je mettrai dans les livres que j'aurai dédicacés. Voilà.
Eh bien, merci à toutes et à tous, et puis au revoir.
Au prochain.